Radio Campus Montpellier.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Montpellier. C'est une première aujourd'hui pour la chaîne puisque nous commençons une nouvelle émission au courant de l'Europe. Aujourd'hui, le premier épisode d'une série qui en compte environ 3 ou 4, ça dépendra des emplois du temps de chacun et des disponibilités. Donc, de quoi va-t-on parler ? Comme le laisse sous-entendre le titre, au courant de l'Europe, on va parler des questions concernant cette organisation internationale unique au monde, l'Union Européenne. Comment ça marche ? Comment elle fonctionne ? Comment ça se passe ? Nous essaierons d'être le plus clair et ludique possible. Pour cela, j'ai avec moi les étudiants du Master 2 Journalisme de l'Université de Montpellier, auquel je fais également partie, et ensemble nous allons vous expliquer ce qu'est l'Union Européenne. Cette émission se fera sur plusieurs thématiques. Dans un premier temps, la revue de presse et une chronique Europe pour les nuls que nous ferons Léa et Léni. Salut Léa et Léni.
Bonjour.
Salut.
Le sujet de la semaine qui tournera autour de la politique migratoire de l'Union Européenne et de notre invité que l'on aura par téléphone, Virginie Guiraudon, qui seront présentés par Camille et Pauline. Et enfin, une en fin d'émission, une chronique culture que nous fera Boris et une autre culinaire que nous fera Pauline. Les présentations sont faites, on peut passer au début de l'émission et on va commencer par une revue de presse signée Léni et Léa.
La revue de presse.
Léni, je vais commencer avec toi. Ça se passe en Europe. C'est Léa qui va commencer. Donc, Brexit, un accord trouvé, bientôt ratifié.
En effet, l'heure de vérité est donc arrivée. Le gouvernement britannique aurait trouvé un accord sur la sortie du Royaume-Uni. Un compromis encore purement technique qui ne conviendrait néanmoins ni aux hard Brexiteurs ni aux pro-européens. Depuis, les démissions s'enchaînent à Westminster Palace, fragilisant la place de Theresa May. En cause notamment la question irlandaise. Faut-il, oui ou non, réinstaurer une frontière dure entre les deux Irlandes ? L'Union européenne dit non, le Royaume-Uni opine. Mais sans solution avant la fin 2020, les Britanniques continueraient à appliquer les règles de l'union douanière actuelle. Reste à convaincre les ministres et le Parlement britannique. Cette semaine, Theresa May se rend quant à elle à Bruxelles pour entériner l'accord. Affaire à suivre.
Relation tendue également entre Italie et Union européenne.
Oui, malgré les recommandations de la Commission européenne, Giuseppe Conte s'obstine et persiste sur son budget de 2019, peut-être un peu trop optimiste. Le gouvernement italien a en effet remis la semaine passée un projet de loi de finances avec des hypothèses de croissance et de déficit qui ne permettraient pas de baisser sa dette. Demain, la Commission européenne a annoncé qu'elle prendra des sanctions contre Rome.
Concernant la création d'une armée européenne, le chantier de la défense européenne avance pour la première fois depuis longtemps.
Emmanuel Macron et Angela Merkel ont émis l'hypothèse. Pourquoi ne pas créer une armée européenne ? Les 10 pays signataires, dont la France, de l'initiative européenne d'intervention, se sont réunis pour la première fois à Paris début novembre pour concrétiser le lancement de la nouvelle structure qui vise notamment à mettre en place une coopération militaire renforcée. Néanmoins, une véritable armée européenne n'est toutefois pas à l'ordre du jour.
Concernant l'économie numérique maintenant.
Et oui Paul, le Conseil des ministres de l'économie s'est réuni début novembre à Bruxelles pour revoir la taxation des grandes entreprises de numérique qui échappent jusqu'alors à l'impôt en Europe. Un projet de taxation des activités qui peine cependant à se concrétiser. Pas de taxe GAFA attendue avant 2020.
Les inégalités se creusent en Europe.
Une Europe de plus en plus riche et de plus en plus inégale. C'est ce qu'affirme le Global Wealth Report. Au regard des prévisions pour 2023, la richesse médiane par adulte est à la hausse dans l'UE. Il n'est pas certain, en revanche, que la répartition de la richesse sera plus équilibrée à l'avenir. L'Allemagne est à la tête des pays qui comptent le plus grand nombre de millionnaires, possédant plus de 50 millions de dollars. Les plus riches, encore plus riches, les pauvres, plus pauvres.
Maintenant, politique, les élections européennes.
Et oui, les dés sont jetés, les pions avancent. À 6 mois des élections européennes, les partis populistes et nationalistes sont en tête dans les sondages à l'échelle européenne sans pour autant effectuer la percée attendue dans l'hémicycle. Confirmation en France, où le sondage ELAB effectué par BFM Télé donne le Rassemblement National de Marine Le Pen en tête avec 20% des intentions de vote devant La République En Marche avec 19,5%.
Un rapprochement entre la France et l'Allemagne.
Tout à fait. Nouvelle marque de confiance entre les deux pays qui vont créer une assemblée de députés communes prévue courant 2019. Elle ne pourra voter les lois néanmoins.
Concernant le secteur de la santé et de la société.
Selon les calculs de chercheurs européens publiés dans la revue The Lancet Infectious Diseases, les bactéries résistantes aux antibiotiques sont responsables de la mort de 33 000 personnes dans l'Union européenne en 2015.
Concernant les Pays-Bas.
Suite à l'assouplissement de la loi sur les embryons, des cliniques vont permettre aux couples d'hommes de recourir à la gestation pour autrui pour avoir des enfants. Une avancée de plus, un soulagement pour les couples homosexuels.
Une question aussi, qui garde le plus les enfants en Europe ?
D'après une étude de la Commission européenne, les pères délèguent toujours autant la garde des enfants aux mères. Les règles en matière de congés parentaux sont néanmoins en train d'évoluer, rallongeant à 5 jours de plus les congés des pères. D'ici 2020, des évolutions sont à venir pour lutter pour des droits et des garanties trop disparates jusqu'à présent.
J'ai vu également que le Parlement européen a voté le 15 novembre un texte en faveur d'un fort renforcement des droits des usagers du transport ferroviaire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Eh oui, les passagers pourront être remboursés de 50% du prix du billet pour une heure de retard d'un train et de 100% pour deux heures.
Maintenant, concernant l'écologie et l'environnement au sein de l'Union européenne.
La transition écologique en mode diesel. Est-on prêt à payer plus pour protéger l'environnement ? Peut-être pas les gilets jaunes en France, mais qu'en est-il à l'échelle européenne ? 3 ans après le scandale du Dieselgate, la place du diesel reste toujours aussi importante dans le parc automobile européen. Près de 43 millions de véhicules diesel en circulation en Europe, contre 29 millions en 2015. Et ce, d'autant que si l'Ouest cherche à se débarrasser des véhicules diesel, toutes ces voitures se retrouvent de plus en plus à l'Est. Bruxelles demande ainsi aux autorités d'empêcher cette fuite vers l'autre bout du continent.
Recyclage maintenant.
Et malheureusement, le tri en Europe, ce n'est toujours pas ça. Journée mondiale de recyclage jeudi dernier. 45% des déchets ménagers seulement sont recyclés dans l'Union européenne. 245 millions de tonnes, soit 483 kilos par habitant. La France est au-dessus de la moyenne, avec 511 kilos en 2016. En France, on produit donc plus de déchets et on les recycle moins.
Bien, le mot de la fin.
Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution de l'air tue environ 500 000 Européens par an. À quand les actes aux paroles ?
On terminera par un petit mot de sport.
Et oui, victoire d'Alexander Zverev en finale du Master de Londres face à Novak Djokovic, son premier grand trophée jusqu'à présent.
Merci Léni, merci Léa. Je me tourne de nouveau vers toi Léa, où tu vas boucler cette revue de presse avec une info sur le PPE, qui nous permettra d'ailleurs d'assurer la transition avec notre prochaine thématique de la journée.
Oui, en effet, l'actu importante, c'est aussi la victoire de l'Allemand Manfred Weber avec 80% des voix lors de la primaire du PPE à Helsinki en Finlande le 8 novembre dernier. Pour petit rappel, le PPE, c'est le Parti Populaire Européen qui regroupe notamment les Républicains en France ou encore la CDU d'Angela Merkel en Allemagne. C'est l'un des principaux partis européens. Et la victoire est importante. En devenant le nouveau chef de file de la droite européenne, Manfred Weber pourrait être le futur remplaçant de Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission européenne, après les élections européennes en mai prochain. Tout cela s'explique depuis le traité de Lisbonne en 2007. Chacun des partis européens s'accorde sur une tête de file unique pour mener la campagne des élections au Parlement de Strasbourg. Suivant ces mêmes résultats, les chefs d'État, ces membres du Conseil européen choisissent la tête de la Commission européenne. Aussi, si le PPE remporte le Parlement, il serait donc bien le mieux placé pour conserver sa place.
Bien, merci Lia, tu as parlé de Commission, tu as parlé de Parlement, ça paraît un peu flou tout ça. Du coup, dans notre deuxième thématique, qui s'appelle Europe pour les nuls, on va essayer justement d'éclairer ces trois grandes institutions qui font partie de l'Union européenne, qui sont le Parlement, la Commission et le Conseil, tout de suite, l'Europe pour les nuls.
Bonjour, c'est François Hollande et je veux ici parler Radio Campus Montpellier.
Radio Campus Montpellier ?
C'est la première fois que la cote de popularité du président de la République est indexée sur le taux du livret A.
L'expérience sonore.
Voilà, donc on va essayer, vous avez compris, d'éclairer ces trois grandes institutions qui sont la Commission européenne, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. On va tout de suite commencer par la Commission avec Léa. Est-ce que tu peux nous en dire sur la Commission européenne ?
C'est l'un des organes les plus importants de l'Union européenne, l'un des plus indépendants aussi. On l'appelle la gardienne des traités.
Alors, avant d'expliquer exactement ce que c'est, où se situe la Commission européenne et qui sont ses membres ?
Alors, c'est simple, comme le Conseil européen, son siège est à Bruxelles, en Belgique. Là-bas, elle compte 28 commissaires, un par État membre, qui ont chacun un mandat de 5 ans et fonctionnent en collégialité. Mais ne vous y trompez pas, son effectif est bien plus large. Au total, la Commission européenne dépasse les 33 000 employés partout dans l'Union. C'est bien la plus grande institution de l'Europe.
Bien, et quel est son rôle maintenant ?
Elle seule défend les intérêts généraux de l'Union et veille au respect du droit européen. Si un État membre ne respecte pas le droit communautaire, elle peut saisir la Cour de justice européenne qui ensuite prendra oui ou non des sanctions. Parmi les autres cordes à son arc, elle soumet des propositions de loi au Conseil de l'Union et au Parlement à Strasbourg, dictant la marche à suivre et surtout les sujets à traiter. Les actes législatifs adoptés sont ensuite mis en œuvre par cette même institution. Côté financement, la Commission européenne fixe les orientations du budget européen et en surveille son utilisation. Pour ceux qui ont eu la chance de faire Erasmus, eh bien sachez que c'est elle qui en gère le budget.
Je sais que aussi la Commission, elle représente l'Union européenne dans le monde entier.
C'est ça, en négociant aussi des accords internationaux la plupart du temps dans les domaines du commerce extérieur et de l'aide humanitaire. Alors prenez date, lors des prochaines élections européennes, c'est bien les citoyens qui, par leur vote pour le Parlement de Strasbourg, éliront indirectement le président de la future Commission européenne.
Merci Léa, on y voit un peu plus clair concernant la Commission. Maintenant Lénie, je me tourne vers toi et tu vas nous parler du Parlement. Qu'est-ce que c'est que le Parlement ?
Eh bien Paul, le Parlement c'est tout d'abord l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952, puis le Parlement européen en 1962. Le Parlement, c'est aussi l'organe législatif de l'Union européenne où sont élus au suffrage universel direct tous les 5 ans 750 députés des 27 pays membres. C'est un scrutin majoritaire à liste proportionnelle à un tour. Le nombre de députés européens dont dispose chaque État membre est plus ou moins proportionnel à sa population, de 6 à 94 députés. Les députés sont groupés selon leur affiliation politique en 8 groupes et non par nationalité. Le Parlement, c'est aussi Antonio Tajani, actuel président. Un président élu pour 2 ans et demi qui représente le Parlement vis-à-vis des autres institutions de l'Union et donne l'accord définitif au budget de l'Union.
Le Parlement, c'est aussi 3 sièges et 3 compétences.
Oui, un siège à Strasbourg, à Bruxelles et au Luxembourg. Le Parlement, comme tu l'as dit, c'est 3 compétences, donc une législative. Il adopte la législation de l'Union avec le Conseil de l'Union européenne sur la base de propositions de la Commission européenne. Il se prononce également sur les accords internationaux.
Il a aussi un rôle de surveillance.
Exactement. Il exerce un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l'Union et il débat de la politique monétaire avec la Banque centrale européenne.
Il a également un rôle budgétaire.
En effet, il établit le budget de l'Union conjointement avec le Conseil. Il approuve le budget à long terme de l'Union.
Bon, et maintenant... Comment fonctionne exactement le Parlement ?
Eh bien tout simplement, le Parlement c'est 25 commissions qui préparent la législation. C'est 4 sessions plénières par mois lors desquelles la législation est adoptée. C'est à ce moment que tous les députés européens se réunissent dans l'hémicycle pour procéder au vote final sur les propositions législatives et d'amendements. Sachez que si vous souhaitez demander au Parlement d'agir sur une question précise, vous pouvez lui présenter une pétition. Seule condition, être citoyen d'un État membre de l'Union européenne ou résider dans l'Union. Mais le Parlement, c'est surtout 2019. 2019 quand, du 23 au 26 mai, les citoyens européens éliront leurs eurodéputés pour la 8e fois depuis 1979. Français, nous sommes aussi tous européens. Les enjeux sont importants. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes.
Alors le Parlement, c'est bien, mais ce n'est pas le plus puissant. C'est le Conseil, et c'est Paul qui va nous en parler. Paul, comment est-il constitué ?
Alors le Conseil, c'est 2 institutions. Une première qui regroupe tous les chefs d'État, une seconde qui regroupe les ministres de chaque État par secteur. Par exemple, l'ECOFIN pour décider de la politique économique et financière. Il est constitué de représentants de chaque État membre, donc 2 niveaux ministériels, en fonction des domaines traités à l'ordre du jour, ce que je disais juste avant. Chaque pays exerce la présidence du Conseil de manière tournante pour une durée de 6 mois. Actuellement, c'est l'Autriche, par exemple, jusqu'à décembre, à la fin de l'année. Le traité de Lisbonne a introduit une simplification du processus de décision avec la majorité qualifiée. Il s'est réuni à Bruxelles et parfois à Luxembourg.
Quelles sont ses missions ?
Alors, le Conseil de l'Union Européenne, il négocie et adopte la législation de l'UE avec le Parlement européen, comme le disait Lénie, sur la base des propositions présentées par la Commission européenne. Il détient avec le Parlement européen le pouvoir de codécision dans le domaine législatif. Il adopte également le budget annuel de l'UE avec le Parlement. Il coordonne les politiques des pays. Il développe la politique étrangère et de sécurité de l'Union en s'appuyant sur les lignes directrices du Conseil européen. Et enfin, il conclut des accords internationaux entre l'Union européenne et d'autres pays ou organisations préalablement négociés par la Commission. Mais attention, le Conseil de l'Union européenne ne doit pas être confondu avec le Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale extérieure à l'UE et qui veille à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, donc on y voit un peu plus clair sur les institutions majeures de l'Union européenne. C'est l'heure maintenant de notre première pause musicale, avant d'aborder notre gros sujet du jour, qui est sur les politiques migratoires en Europe. Donc pause musicale avec Feel It Still de Portugal The Man.
On myself, think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl, is it me? Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. Six, I'll be over now, but I feel it still.
De retour sur Radio Campus Montpellier, c'est la deuxième partie de l'émission 1 des hauts courants de l'Europe et il est l'heure de passer au sujet de la semaine.
Le sujet de la semaine.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la politique migratoire au sein de l'Union Européenne et pour cela, Camille va nous faire un petit décryptage de la situation migratoire et de ses enjeux. Et dans un second temps, nous recevrons au téléphone Virginie Guiraudon, que l'on présentera tout à l'heure avec Pauline. Et dans un troisième temps, nous écouterons un reportage signé Fanny et Ludovic sur la gestion migratoire à Montpellier. Camille, je te laisse la parole.
Le terme « crise des réfugiés » apparaît en 2015 suite à un nombre d'arrivées de migrants sans précédent en Europe. 1 million de personnes auraient pénétré irrégulièrement sur le territoire européen cette année-là. L'appellation « crise des réfugiés » devient alors incontournable chez les politiques ou les journalistes, dans un contexte où plus de 12 millions de Syriens fuient leur pays dévasté par la guerre. Cette augmentation du nombre de réfugiés déplacés est aussi le résultat de la multiplication de conflits violents dans des pays tels que l'Irak, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, l'Érythrée ou encore le Sud-Soudan. Cependant, l'Europe n'est pas l'espace le plus touché par ces arrivées. Le poids des migrations repose avant tout sur les pays limitrophes des zones en guerre, comme le Liban ou la Turquie, dans le cas du conflit syrien. En 2016, 710 400 personnes ont obtenu une demande d'asile en Europe, soit seulement 0,13% de la population européenne. La moitié étaient des Syriens, selon l'Office européen des statistiques Eurostat. 1,4 million de personnes seraient arrivées par la mer depuis 2015, la Méditerranée restant la principale voie d'accès du territoire européen, à côté de la route des Balkans, à l'est de l'Europe. 17 000 personnes seraient mortes et disparues en Méditerranée depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les termes migrants et réfugiés sont souvent confondus, cependant la désignation migrant n'a aucune valeur juridique et se réfère simplement à des personnes qui quittent leur pays pour rejoindre un autre, tandis que le terme réfugié, lui, est défini par la Convention de Genève de 1951 comme une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle et qui craint avec raison d'être persécutée de fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à certains groupes sociaux ou opinions politiques. Alors comment s'organise l'Europe pour accueillir les réfugiés? Au niveau européen, plusieurs traités encadrent la politique migratoire, comme l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce dernier vise à harmoniser les réglementations nationales concernant l'entrée et les séjours dans chaque pays. L'article 78 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, lui, définit un statut commun des ressortissants nécessitant une protection internationale. L'UE cherche ainsi à poursuivre l'objectif de l'établissement d'un régime d'asile européen commun. Encore aujourd'hui, c'est le Conseil européen qui choisit à l'unanimité des orientations stratégiques de la politique d'immigration et d'asile. Le règlement Dublin III, de son côté, impose que les demandes d'asile soient déposées dans le pays par lequel le demandeur est entré dans l'espace européen.
Tout le monde me dit que si mes empreintes sont enregistrées, ils me renverront en Suède et de là-bas, on me renverra en Afghanistan.
Vient l'heure de la vérification de ces empreintes, sur cette borne reliée à une base de données européenne. Sans surprise, elles ont été enregistrées par la Suède.
Donc maintenant, en fait, il faudrait l'informer qu'il s'agit d'une procédure Dublin. Donc il s'agit d'une demande de la France de reprise en charge de son dossier par la Suède. Donc la procédure veut que le premier pays où il a laissé ses empreintes traite sa demande d'asile.
Danish est effondré. Comme lui, ils sont plus de 22 000 à être placés en procédure Dublin en France, soit 25% des demandeurs d'asile.
La politique d'immigration et d'asile européenne se base sur la liberté de circulation de l'espace Schengen, définie par le traité d'Amsterdam en 1997. Les États peuvent cependant rétablir temporairement leurs frontières nationales pour garantir l'ordre public ou leur propre sécurité en cas de menace. L'ouverture des frontières intérieures de la zone Schengen entraîne un renforcement des frontières extérieures de l'Europe. Plusieurs mesures ont été mises en place pour lutter contre le terrorisme et l'immigration illégale. Cela a abouti à l'établissement du système d'information Schengen, une base de données qui recense les interdictions d'entrée et les personnes recherchées ou disparues. Il existe aussi un système européen de surveillance des frontières nommé Eurosur, ainsi que Frontex, agence de coopération de contrôle des frontières extérieures. L'UE dispose depuis 2010 d'un bureau européen d'appui en matière d'asile pour faciliter les coopérations entre les administrations des États membres et l'échange d'informations. Mais les États européens s'opposent entre eux sur l'accueil, malgré une uniformisation du statut de réfugié et des tentatives d'harmonisation des normes européennes en matière d'immigration. Les effectifs et le nombre de demandes d'asile octroyées restent à la discrétion des pays eux-mêmes. L'immigration est devenue un point de discorde important entre les États européens qui ne parviennent pas à trouver d'accord dans la répartition des demandeurs d'asile. Certains pays comme la Hongrie, la Pologne ou l'Italie se déclarent clairement hostiles à l'immigration. Cet été, les négociations pour la répartition des migrants de l'Aquarius puis du Lifeline, bateaux refusés par Malte et l'Italie, se sont avérées difficiles, à les limites de la crise diplomatique, les États européens se renvoyant la balle, comme l'illustre l'intervention de la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, à Télématin.
La France rappelle le droit international. Lorsque vous avez un bateau et que vous faites du sauvetage en mer, ce qui est le cas des passagers du Lifeline, vous les débarquez dans le port sûr le plus proche. Le port sûr le plus proche, c'est Malte, c'est l'Italie.
Ça arrange tout le monde.
Ça n'arrange pas tout le monde, c'est le droit international et on n'est pas là pour remplacer le droit par la loi de la jungle. En revanche, on ne peut pas dire à Malte ou à l'Italie, débrouillez-vous tout seul.
Après de nombreuses négociations, 5 pays, dont la France, ont finalement accepté de se partager les 142 migrants secourus par l'Aquarius. Le bras de fer entre les États européens se poursuit cependant, comme l'illustre l'opposition entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini sur la fermeture des ports italiens, alors que les traversées en Méditerranée ont diminué de 80% en 2018. Le président Macron a refusé d'ouvrir sur le sol français des centres d'accueil contrôlés pour les migrants, projet figurant dans l'accord européen sur la migration conclu en juin. Ces centres établis en Italie, Espagne et Grèce sur une base volontaire doivent servir d'espace pour déterminer les migrants susceptibles d'obtenir l'asile et ceux à expulser. Le ministre de l'Intérieur italien reprochait à Emmanuel Macron d'être à l'initiative de cette proposition, sans pour autant accepter de créer des centres sur le territoire français. En octobre, Matteo Salvini avait violemment interpellé le président français après une reconduite de réfugiés à la frontière italienne, alors que les autorités n'avaient pas été prévenues. Il avait qualifié cet acte d'offense sans précédent, déclarant « Incroyable, je ne veux pas croire que la France de Macron utilise sa police pour débarquer clandestinement les immigrés en Italie ». Ainsi, malgré les textes et une politique d'asile et d'immigration commune, on est très loin d'une solidarité européenne en matière de gestion des flux migratoires.
Merci Camille pour ce décryptage. Nous avons maintenant en ligne Virginie Guiraudon, directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris, spécialiste des politiques d'immigration européenne. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci de répondre en tout cas à nos questions pour Radio Campus Montpellier. Pauline, je te laisse la parole, c'est à toi de jouer.
Alors nous avons évoqué dans notre décryptage le terme « crise des réfugiés ». Est-il toujours adapté à la situation migratoire actuelle selon vous ?
Alors il y a un consensus, hein, donc c'est selon moi, mais surtout je pense même d'ailleurs dans l'emploi qui en est fait par un certain nombre de dirigeants politiques ou européens, qu'il n'y a plus de crise des réfugiés, mais une crise de l'Europe, hein, sur la question de la gestion des migrations et de l'asile. Alors pourquoi déjà ce mot crise, bon, il est employé souvent, hein, la crise de l'euro, la crise de l'Europe, mais si on regarde simplement comme un démographe les chiffres, c'est sûr qu'après le pic de 2015, il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'arrivées, en particulier en 2017-2018. Après, s'il s'agit de savoir ce qui se passe après que les gens arrivent, on parle plutôt de crise de l'accueil, c'est-à-dire du fait qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Je ne sais pas s'il y en a à Montpellier, mais en tout cas, il y en a beaucoup à Paris. Il y a des campements, il y a des gens encore dans des hotspots qui sont là depuis plus de 2 ans, comme dans le camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce. Donc si une crise c'est quelque chose qui ne va pas, ce serait plutôt sur ce que vous avez évoqué juste avant, hein, la question de la solidarité entre pays européens et puis surtout la situation de personnes qui sont encore coincées, littéralement en attente, dans des centres ou dans des campements dans plusieurs pays européens.
Donc pour vous, il s'agit vraiment d'une crise du consensus ou vraiment de la solidarité entre les pays européens en ce qui concerne l'accueil ?
C'est ce qui est le plus visible, et vous l'avez évoqué, les les bagarres qui vont s'accentuer, je pense aussi dans le contexte de la campagne pour les élections au Parlement européen de mai 2019. C'est une crise assez ancienne, en fait, cette question de solidarité, puisque les pays de l'Ouest, les premiers pays fondateurs de l'accord de Schengen, les premiers pays signataires de l'accord de Dublin, ont imposé d'une certaine manière aux pays d'Europe de l'Est et centrale un certain nombre de lois, de directives, de traités, et puis vis-à-vis du Sud, ont effectivement un peu laissé traîner les problèmes. Hein. Ça fait des années que les gouvernements, bien avant Salvini, réclamaient plus de solidarité en Italie notamment. Donc il y a cet aspect-là, à la fois les causes profondes de la situation actuelle, elles sont anciennes. Hein. C'est dès le départ, on a essayé d'empêcher l'arrivée des migrants non désirables, appelez-les comme vous voulez, enfin des personnes qu'on ne voulait pas accueillir en Europe le plus loin possible. Et c'est assez ancien. Sauf que comme vous le voyez, ça n'a pas marché puisque on a eu des centaines de milliers d'arrivées en non désiré pour le coup en 2015 et encore maintenant une situation humanitaire compliquée.
Justement, en parlant de ces accords passés avec des pays comme la Turquie ou encore la Libye, ne sont-ils pas au final une déresponsabilisation de l'Europe ou justement une externalisation au final qui vient détonner avec une volonté de dissuasion des entrées sur le territoire européen ou plutôt une véritable politique de gestion des flux migratoires ?
Alors, la politique de gestion des flux migratoires au niveau européen, mais au niveau national, depuis l'accord de Schengen de 90, c'est précisément d'empêcher l'entrée sur les territoires européens. Très rapidement, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on arrive sur le territoire européen, on peut demander l'asile, on peut avoir l'aide éventuellement d'associations comme on a en France le GISTI ou la CIMAD qui vont vous aider à déposer une demande. Et en plus, ça sera difficile de vous renvoyer chez vous ou dans un pays tiers. Donc l'idée, c'est que les gens n'arrivent pas. Depuis 1990, qu'on est l'accord de Schengen. Est-ce que ça déresponsabilise l'Europe ? Je pense que si on se place du point de vue des pays du sud de la Méditerranée ou même des pays d'origine, on peut dire que l'Europe a une responsabilité, par exemple, dans la situation en Libye. C'est bien la France, d'ailleurs, qui est intervenue en 2011. Donc ils ont une responsabilité sur certaines des causes, en particulier de la question des réfugiés ou même dans la situation en Libye, de ceux qui transitent par la Libye. Mais vraiment, c'est la base, c'est le fondamental de la politique européenne, c'est empêcher les arrivées.
Et justement, en parlant de ça, les négociations de la réforme du règlement Dublin III, qui sont marquées notamment par un désaccord entre les différents organes de l'Union européenne, cette réforme ne risque-t-elle pas justement de renforcer l'impossibilité pour un réfugié de choisir son pays d'accueil, voire d'effectuer un tri avant l'arrivée sur le sol européen ?
Oui, alors c'est une bonne question. Alors d'abord sur la question du désaccord entre différents organes de l'Union européenne, c'est intéressant, ça paraît technique, mais on voit que depuis 2015, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises en dehors du cadre normal en particulier le Parlement européen est souvent écarté des discussions. C'était la crise, c'est-à-dire l'urgence de la situation qui était invoquée. En 2018, on peut dire que voilà, la crise de 2015 étant passée, on peut peut-être revenir à une procédure normale. Mais pour répondre à la question sur Dublin III précisément, l'idée de Dublin, déjà au départ, c'est bien qu'on ne puisse pas, on puisse pas choisir son pays d'accueil. On doit s'enregistrer et la procédure d'asile sera effectuée dans le premier pays d'accueil. Là, c'est sûr que c'est un modèle très allemand qui est aussi appliqué au Royaume-Uni, où en plus on redistribue les demandeurs d'asile sur tout le territoire. Quand on arrive en Allemagne, ensuite on sera envoyé dans une des régions allemandes hein, qui s'appelle les Länder. Mais là, je vais répondre en sociologue des migrations. Quand on est, si on se passe du point de vue des migrants, eux, ils ont un projet migratoire. Même ils fuient une guerre ou ils sont demandeurs d'asile, ils parlent une certaine langue, ils ont des contacts dans un certain pays, ce ne sont pas des pauvres malheureux victimes qui veulent aller n'importe où, ils sont encore des acteurs de leur projet migratoire. Et donc forcer les gens à aller quelque part, ça va créer en fait toutes sortes de problèmes ensuite. On le voit d'ailleurs en France, hein, on envoie certains demandeurs d'asile à la campagne, c'est très bien, puis en fait ils ne veulent pas rester, ils reviennent à Paris dormir dehors. Donc aller contre ce que j'appelle la sociologie de l'immigration, c'est-à-dire regarder vraiment sorte que la carrière migratoire, les projets migratoires des migrants, ça va créer des problèmes.
Justement, en parlant de la France et de ses migrants, notamment qui sont dans les campagnes, est-ce que vous pensez que la France gagnerait à mettre en place une politique d'intégration pour favoriser un vivre ensemble ?
Oui, alors on a la politique d'intégration, vous êtes évidemment beaucoup trop jeune pour vous en rappeler, parce qu'en fait, on en a énormément parlé dans les années, à partir des années 80, en fait, dans les années 90, c'était quand même d'ailleurs quelque chose dont était, la France était fière, qui exportait sa politique d'intégration. Et puis ça a été vraiment complètement abandonné par les politiques publiques. On a juste, quand on arrive éventuellement des cours de français, on signe un contrat d'accueil d'intégration, mais le mot intégration ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire qu'une politique d'intégration, ça accompagne les gens qui arrivent en France jusqu'à, normalement, j'ai envie de dire, presque jusqu'à ce qu'ils deviennent citoyens français. C'est-à-dire qu'on leur permet d'avoir les codes, les moyens de s'intégrer sur le marché du travail et dans la vie courante. Et ça, on l'a effectivement, il n'y a plus d'argent d'ailleurs pour ça, hein, depuis longtemps. Et pourtant, c'est vraiment important, parce que dans politique d'intégration, il y a aussi l'idée que ça permet un vrai échange entre les populations déjà là et les nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où il faut se comprendre, où il y a des différences culturelles, où il y a des... Voilà, donc c'est... Je pense que vu la situation politique en France, avec 11 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, on sait qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont très réticents à l'idée d'accueillir de nouveaux migrants. Donc la politique d'intégration, c'est aussi une façon, comme alors le vivre ensemble, c'est, j'utilise jamais ce terme parce que je le trouve un peu trop médiatique justement, mais en tout cas d'empêcher un certain nombre de rejets ou d'incompréhensions entre les populations qui nouvellement arrivées et les personnes qui sont déjà là.
En ce qui concerne la loi asile et immigration en matière d'accueil, qu'est-ce qu'elle va changer justement en France ?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Enfin, en plus, vous savez que les chercheurs n'aiment pas se transformer en Madame Soleil et faire des prédictions. Ceux qui ont fait les prédictions, c'est plutôt les ONG, hein, les associations et un certain nombre de partis politiques qui étaient opposés à la loi. De façon donc très simple, il y a quand même quelque chose qui va changer sur l'asile. Il y a l'idée d'accélérer les procédures, qui est beaucoup moins de temps en fait, ce qui peut paraître une bonne chose. Hein. En France, il y avait le temps de la procédure était assez long, mais en fait, ce qui est un problème en France, c'est plutôt le temps d'obtenir de la préfecture le premier pas vers la demande d'asile, c'est-à-dire un espèce de récépissé qui vous permet de rester, de déposer votre demande. Si ce délai est très très court, par contre, pour la demande d'asile, les associations ont peur que ça soit difficile d'avoir un bon dossier, de vraiment avoir tous les éléments, de défendre son dossier pour obtenir l'asile. Donc une façon, en fait, un petit peu détournée, de réduire encore plus le taux de reconnaissance de l'asile, qui en France est un des plus bas d'Europe, hein, puisqu'on est à plus de 30%, donc c'est un taux très très bas par rapport à nos voisins. Et alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va changer sur la loi ? C'est qu'on change de loi sur l'immigration en France tout le temps, c'est-à-dire plus d'une vingtaine de fois depuis les années 80. Et là, même le Conseil d'État a dit, on a fait une réforme de la loi asile et immigration avant même que la loi d'avant, adoptée sous le quinquennat Hollande, ait eu le temps de faire ses preuves, où on n'a pas pu évaluer la loi précédente, que déjà on en vante une autre. Ça, c'est une maladie française, j'ai envie de dire.
Et justement, revenons sur votre profession de chercheuse et sur cette notion de changement. Vous avez réalisé un appel à projet avec d'autres chercheuses comme Camille Scholm ou Hélène Thiollet pour créer justement un groupe d'experts intergouvernemental sur l'immigration à l'image de celui du GIEC pour le climat. Alors, pouvez-vous nous rappeler le but de cette initiative ?
Alors, c'est pas un appel à projet au sens où on ne demande pas des sous. On a envoyé un appel donc qui a été effectivement relayé par Le Monde, The Guardian, La Repubblica, et qui a été signé très très vite donc en juin par à peu près 700 collègues. Et effectivement, donc le but, hein, c'est de très simple. Face à un discours politique, hein, et relayée aussi évidemment par par les médias de toutes sortes, hein, y compris évidemment les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de contre-vérités. Déjà, on a été quand même assez interpellés par cela, mais on a aussi été interpellés par le fait que les gouvernements eux-mêmes font des politiques sur des bases sur des faits qui ne sont pas avérés par la recherche et avec des paradigmes qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on sait depuis longtemps dans le champ d'études sur les migrations. Donc notre idée, elle était assez simple, c'est-à-dire on va faire un groupe international, donc pas juste les Français qui parlent au gouvernement français, mais bien international, pluridisciplinaire, de chercheurs, alors on appelait ça les experts, mais vraiment de chercheurs, pour faire un état des lieux de où nous on est dans la recherche, et que les gouvernements, et d'ailleurs vous-même, par exemple, comme journaliste, puissent ensuite les utiliser, ou non d'ailleurs, mais au moins avoir une base avec des faits avérés, avec de la recherche qui a été validée par les pairs, par les meilleures revues, parce que là, ce qu'on entend, nous, de la part des politiques, c'est qu'ils ne savent pas vraiment, ils ont des notions très floues sur, par exemple, le rapport entre données de l'aide au développement et les flux migratoires, et puis il y a toutes sortes de prophètes de la catastrophe qui, eux, publient des livres et qui sont plus relayés par les médias, donc ça nous a inquiétés. Où on en est? On a été reçus à l'Élysée, on est en contact avec le bureau de la chancelière allemande, on essaie d'avoir un portage politique, et entre-temps, nous, on s'organise avec des collègues dans le monde entier pour avoir une sorte de GIEC, donc de groupe de chercheurs internationaux qui fera un rapport, par exemple, tous les 2-3 ans, avec vraiment le nec plus ultra, j'ai envie de dire, de la recherche en la matière. Remettre un petit peu de faits et de discussions sur le fond, sur ces, en particulier en Europe, mais dans le monde entier, hein, puisqu'on voit ce qui se passe avec Trump, pour discuter plus vraiment de c'est quoi une dynamique migratoire, pourquoi les gens migrent, qu'est-ce qui se passe après, quels sont les effets de certaines politiques, est-ce que ça coûte cher ou pas l'immigration, toutes ces choses qui sont en débat public, mais on a très peu de réponses satisfaisantes de la part des gouvernements et des fois de ce qui est relayé, non pas par Radio Montpellier, mais par d'autres.
Mais pensez-vous justement qu'un groupe de recherche comme celui-ci puisse avoir un poids plus important sur les décisions politiques ?
C'est très ambitieux, c'est le pari, si on ne sait pas, on ne saura jamais. Je pense qu'il y a une responsabilité du chercheur, de tous les chercheurs, a fortiori, les chercheurs en France sont souvent, ce sont des fonctionnaires, hein. Nous travaillons pour l'État, mais aussi pour les contribuables, pour les citoyens, c'est de nos devoirs, j'ai envie de dire, d'être sûr que dans l'espace public, les recherches que nous faisons soient à disposition du grand public et des politiques. Et après, les politiques pourront nous ignorer, mais au moins il y aura eu ce constat, et je pense que c'est le cas du GIEC pour le climat. Je pense que personne n'ignore maintenant le rapport du GIEC pour le climat. Ça n'empêchera pas Trump de dire que c'est faux, mais au moins ce constat est là. Et il permet quand même de mettre un petit peu de clarté dans le débat. On a eu des réactions plutôt positives pour le moment des politiques. Alors quand je dis politiques, on s'adresse pour le moment qu'au gouvernement. Hein. L'idée, c'est d'être aussi un groupe complètement indépendant des partis politiques ou des ONG.
Eh bien, on vous remercie, Virginie Guéraudon, pour vos réponses.
Merci,
merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour vos excellentes questions, si je puis me permettre.
Merci Pauline. C'était passionnant. J'espère à très vite, en tout cas sur Radio Campus Montpellier. Bonne continuation à vous et merci encore, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions.
Merci. Bonne journée.
Merci Pauline pour cet entretien qui était passionnant.
Hein.
On va passer à autre chose de passionnant, parce que tout est passionnant finalement avec l'Union Européenne. Il est l'heure maintenant d'un reportage réalisé par Ludovic et Fanny sur la gestion migratoire à Montpellier. C'est parti.
Radio Campus Montpellier.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
102.2.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
L'expérience sonore.
14 862, c'est le nombre de disparus en mer Méditerranée en 4 ans et demi. La grande majorité de ces disparitions surviennent en Méditerranée centrale, entre la Libye, la Tunisie, Malte et l'Italie. Cela en fait la route migratoire la plus meurtrière au monde. Mais certains arrivent, au péril de leur vie, à atteindre le sol européen. C'est le cas de Hadi, un jeune Guinéen arrivé à Montpellier il y a 3 mois.
Moi, j'ai quitté la Guinée en 2014. Voilà. Moi, c'est un problème familial. Mon papa, il était militaire, donc il est décédé en 2008. Ma maman, elle est décédée en 2014. Il a chance parce que voilà, dans la Méditerranée, tout le monde attendait qu'il la mort, quoi, parce que notre zodiaque avait pris de l'eau, tu vois. Donc, on attendait la mort. Et parce que j'étais mineur en Italie, bien avant d'arriver ici, j'étais en Italie. J'ai fait un an, 5 mois en Italie. Donc j'étais dans un campo mineur et voilà. Moi, ma marraine, je l'avais rencontrée à la Coris, à la Pada, tu vois. Je l'ai vue une fois avec un pote, du coup. Et j'ai eu l'occasion de la parler de ma situation. Depuis lors, nous sommes ensemble maintenant, quoi. Tu vois, c'est elle qui me suit, voilà, dans mes démarches, quoi, tu vois, là. Ça fait mal quand même parce que voilà, là-bas, nous n'étions pas dans les bonnes conditions.
Parmi les 3 procédures existantes, Hadi est soumis à la procédure classique qui devient pourtant aujourd'hui presque minoritaire. Elle débute par un entretien à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La personne peut se faire assister par une association agréée qui a souvent peu de moyens ou par un avocat, mais sans aide juridictionnelle. Les migrants se retrouvent alors souvent seuls durant l'entretien, entraînant un rejet de leur demande. Ce rejet est suivi d'un délai de 1 mois pour effectuer un recours à la Cour nationale du droit d'asile. Parmi ceux qui ne bénéficient pas de cette aide juridictionnelle, certains utilisent leur allocation de demandeur d'asile de 400 euros afin de payer un avocat. Suite à quoi, le demandeur est convoqué à une audience en région parisienne. À l'issue de la décision de l'audience, il y a un taux d'échec de près de 75%, entraînant l'envoi d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui coupe court à tous leurs droits, hébergement, allocation, structure. Cette procédure classique dure généralement de 6 à 9 mois. Elle est similaire mais raccourcie en cas de procédure accélérée. Si Hadi s'estime heureux d'avoir bénéficié de cette procédure classique, c'est qu'il existe une troisième situation, les personnes soumises au règlement Dublin, plus communément appelé les Dublinés. Opposé à cette règle, le collectif Bienvenue Migrants 34 se mobilise en faisant pression sur le préfet pour mettre fin à cette politique arbitraire.
De démarche quand même, de même pas de négociation, d'interpellation du préfet, puisque c'est l'asile, c'est une responsabilité du ministère de l'Intérieur. Et donc du coup, c'est le préfet ici qui le gère et notre préfet, quoi. Enfin, n'utilise pas ses prérogatives toujours de façon très souple. Et notamment sur cette question un peu plus complexe là de la procédure Dublin, le règlement Dublin. Tout à l'heure, on a l'impression que c'est un peu la loterie, quoi. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi. Un jeune homme, ça va être oui pour un, non pour l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est un peu... c'est assez incompréhensible, quoi.
Cette procédure de dédublinage consiste à faire en sorte que les migrants dublinés puissent suivre une procédure classique de demandeur d'asile. C'est ce qu'a pu faire une jeune Nigérienne enceinte, la filleule d'Elodie, qui nous en dit plus sur son rôle de marraine.
Simplement en activant les réseaux officiels en fait, de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile et de l'OFI, qui ont la responsabilité d'héberger les demandeurs d'asile, tous, mais qui disent manquer de place, etc. Donc du fait de sa situation, au bout de 15 jours, elle a eu déjà un premier hébergement. De là, elle est passée dans un autre, et puis encore un autre. Voilà. Et puis, entre-temps, on a fait aussi des démarches par rapport à sa dédublinisation, justement. Donc, elle a été dédublinée. Et aujourd'hui, elle a une place en CADA, qui est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et c'est le lieu où on accueille le mieux, si on peut dire, les demandeurs d'asile, avec vraiment un vrai hébergement digne de ce nom, des travailleurs sociaux qui sont là pour aider dans les démarches.
Un système qui permet, pour Laure et Elodie, de partager beaucoup.
Puis après, il y a l'aspect strictement de fraternité et de prise en charge, qu'elle soit sur le plan humain et d'accompagnement administratif, juridique, santé, tous les aspects de la vie de gens qui vivent ici, souvent dans des conditions extrêmement précaires. Et voilà. Donc, puis c'est se rencontrer et être en lien et inter-échanger nos cultures et se nourrir les uns des autres, quoi. Voilà. Puisque leur choix, c'est de plus vivre chez eux et de vivre ici. Et en même temps, ils sont pleins de richesses.
C'est une rencontre humaine, quoi. Mais voilà, c'est beau. Enfin, je trouve que c'est une belle rencontre.
Si les actions du collectif ont permis à certains d'être dédublinés, la liste est encore longue.
Voilà donc pour ce reportage réalisé par Ludovic et Fanny qui répond bien à ce que l'on a vu avec Virginie Guiraudon, notamment sur les effets de cette politique migratoire en Europe. Bien, nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais nous allons finir par une petite touche un peu plus culturelle, on va dire. Et c'est Boris qui nous a rejoint dans le studio pour nous faire sa chronique sur une pièce de théâtre, Parlement sans les voyelles, hashtag 1, la chute de l'Union Européenne, écrite par Camille de Toledo.
Ce que vous allez voir est une fiction d'anticipation. Ou peut-être une histoire de l'avenir, ou peut-être le récit d'une histoire possible.
Nous sommes en 2030. Le Parlement européen est tombé. La pièce se structure alors autour des interventions d'Edouard Bannon, lobbyiste à Bruxelles, et de José-Louis Saval, employé de la Commission. Tous deux sont interrogés sur leur implication et leur responsabilité dans les événements qui ont conduit à la chute du Parlement européen, sans pour autant en détailler précisément les causes. Tout au long du spectacle, les images polysémiques se succèdent, sortant le spectateur de sa zone de confort et le poussant à s'interroger sur l'avenir du monde. Du monde fictif, mis en scène par Christophe Bergon, mais aussi du monde réel, qui lui ressemble sous bien des égards. À la sortie, pour Léa, ces nombreuses zones floues sont salvatrices et stimulent les esprits.
Ça trace quand même quelques petites lignes un peu dérangeantes sur l'immigration. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça aussi, sur le rapport de l'homme à la nature. Ça trace des biais de réponse, mais ça te laisse complètement libre de ta réflexion. Donc ça, en soi, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que ça amenait pas... Bien qu'il y ait l'idée derrière que ce soit un peu les lobbies qui soient la machine qui fasse exploser l'Europe, où j'ai trouvé ça... peut-être un peu grossier pour moi dans le sens où il n'y a pas que ça aussi, mais c'est la façon dont je l'ai ressenti et peut-être que l'équipe artistique a souhaité la traiter. Je trouvais que c'était intéressant parce que ça posait les bonnes questions et que ça t'amenait sur des pistes de réflexion à explorer pour plus tard.
Mais peut-être plus encore que le traitement du sujet, c'est la forme qui a surpris cette étudiante à l'université Paul Valéry.
J'ai beaucoup aimé les différents supports, la lumière, les écrans, les chansons aussi, parce que j'ai pas eu souvent l'occasion d'aller au théâtre et d'entendre des chants. Enfin, pour moi, c'est plus de l'opéra et ouais. c'était un peu particulier de voir ça.
La présence de la musique et de la chanson, c'est l'une des marques de fabrique du théâtre de Christophe Bergon.
Vous voyez que je travaille beaucoup à partir des interprètes et à partir de leur boutique. Et je trouve que Jules Ekman est un excellent musicien, chanteur. Et donc on a utilisé ça beaucoup. Et ça m'intéresse toujours en fait que les interprètes soient plus que des porteurs de textes.
Des textes qui, nouvelle originalité de l'œuvre, sont joués dans trois langues. Le français, bien sûr, mais aussi l'anglais et l'espagnol, dont les traductions sont données par des sous-titres qui apparaissent au fond de la salle.
Donc la vraie langue de l'Europe, politique, c'est la traduction.
Oui.
C'est Umberto Eco qui dit ça, hein, la langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est-à-dire qu'on est... on est là pour se traduire les uns les autres. Et on le voit, même aujourd'hui, beaucoup en Europe, en France, on est un petit peu en retard, mais dans d'autres pays européens, ça parle, la jeunesse parle plusieurs langues. Et on le voit quand on rencontre des groupes de gens comme ça qui sont de nationalités différentes, en fait. C'est pas uniquement l'anglais. Il y a plusieurs langues qui circulent, en fait, souvent dans les conversations. Et du coup, le projet-là de pouvoir utiliser plusieurs langues, c'était aussi ça.
Parfois dérouté, mais visiblement séduit, le public du théâtre de la Vignette se lève comme un seul homme dès la dernière réplique prononcée. L'ovation pour les acteurs Jules Beckmann et Marcelino Martin Baliente dure de longues secondes. Puis vient l'heure rassurante du retour à la réalité. Une réalité où l'Europe n'a pour l'heure pas disparu. Pour Christophe Bergon, après la dystopie, vient bientôt le temps de l'utopie, qu'il mettra en scène dès le mois de février dans Parlement, hashtag 2, l'invention d'un monde. Un monde où l'Union européenne, débarrassée du patriarcat, se reforme autour d'un parlement exclusivement féminin qui reconnaît aux forêts, aux animaux et aux rivières les mêmes droits qu'aux hommes.
Merci Boris pour cette pièce de théâtre. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle se jouera, cette deuxième édition, ou pas?
Dès le mois de février.
Dès le mois de février. Mais en tout cas, merci beaucoup. On va passer, il est bientôt midi, on va s'ouvrir l'appétit avec Pauline, avec cette dernière chronique culinaire. Donc Pauline, est-ce que la cuisine européenne existe?
Eh bien, on pourrait croire qu'en disant cela, il s'agit d'un type de cuisine bien précis. Eh bien non. C'est un terme qui regroupe le patrimoine culturel de l'ensemble des pays qui composent le continent européen. Il existe donc une diversité de cuisines au sein de celui-ci.
Alors que peut-on faire entrer dans cette catégorie justement?
Eh bien je suis sûre que vous en connaissez plein des plats aux racines européennes, mais vous peinez à les identifier car ils ont été adaptés localement ou aux standards nationaux. Dans ces grands standards, on peut retrouver des incontournables comme la pizza ou encore la paella. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire un véritable Apfelstrudel. Bref, un strudel aux pommes. Un petit clin d'œil à nos amis autrichiens, actuellement à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce gâteau traditionnel, à base de pommes, a su dépasser les frontières. Vous le retrouverez en Allemagne, en Suisse alémanique, ou encore dans le nord de l'Italie et dans bien d'autres endroits en Europe de l'Est. Un dessert que vous pourrez idéalement proposer sur votre table à Noël. Une version simple, pour 6 personnes. Ou pour cela, il vous faut une pâte feuilletée, 3 pommes, une orange pressée, 2 cuillères à soupe de miel liquide, 30 g de beurre, 80 g de raisin sec, 80 g de poudre d'amande, un œuf battu, 50 g de sucre et une cuillère à café de cannelle. Alors vous commencerez par couper les pommes en petits morceaux que vous ferez revenir ensuite dans du beurre. À cela, on ajoute notre jus d'orange pressé, le miel, les raisins secs et le sucre. Pendant environ 10 à 15 minutes, vous laissez cuire tout cela à feu doux pour que les pommes et les raisins prennent le goût du miel et du jus d'orange. Après avoir égoutté et laissé refroidir, faites préchauffer votre four à 220 degrés. Pendant ce temps, étalez votre pâte feuilletée, versez-y une bande de poudre d'amande au milieu et ajoutez la préparation aux pommes. Avant de replier la pâte feuilletée et de la badigeonner de l'œuf battu pour qu'elle ait ce bel aspect bien doré, pensez à rajouter votre restant de poudre d'amande sur le dessus de votre préparation. Enfin, saupoudrez votre strudel avec un mélange de sucre et de cannelle avant de l'enfourner. Laissez-le cuire environ 25 minutes et vous pourrez le servir chaud ou tiède selon vos envies, à déguster avec une boule de glace de vanille ou au citron.
Merci Pauline, et ce que vous ne savez pas, c'est que Pauline nous en a préparé un pour le dessert, donc voilà, juste pour mettre l'eau à la bouche. Voilà, donc on arrive au terme de cette émission. Vous pouvez retrouver cette recette et toute l'émission évidemment en podcast sur le site aucourant.com, aucourant, H-A-U-T, courant.com. Voilà, donc juste tout de suite, nous avons l'instant animation à midi sur Radio Campus. Merci à tous, merci aux chroniqueurs, merci à Tom à la technique, merci à l'ensemble du master de journalisme de l'Université de Montpellier. On se quitte sur The Chain de Fleetwood Mac et on se retrouve très vite pour le deuxième épisode de Au Courant de l'Europe.
Merci d'être si joyeux, j'ai la pêche et avec vous, c'est la super pêche. Oh yeah.
Radio Campus Montpellier, 102.2.